Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au/french.
SBS, a world of difference. You're with SBS French, on mobile, online and on radio.
Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en ligne et à la radio.
Bonjour et bienvenue à cette édition du programme en français de ce samedi 14 août. Pour vous accompagner, Bertrand Tungandamé. Au sommaire de cette édition, nous avons notre rubrique hebdomadaire rétro et nous revenons cette semaine sur l'effondrement du pont Morandi à Gênes. On parlera cinéma également avec le réalisateur de Miss, un film qui a connu un grand succès et qui est maintenant disponible en salle. Et nous allons parler également de la police canadienne et pourquoi il est important d'avoir des aborigènes du Canada au sein du corps de police canadien. Mais sans plus tarder, l'actualité de ce samedi. Au sommaire de ce bulletin, la Nouvelle-Galles du Sud durcit les restrictions sanitaires après avoir enregistré 466 nouveaux cas de COVID-19 et réunion d'urgence des pays de l'OTAN suite à la progression inexorable des talibans en Afghanistan. Et en France, obsèques hier du père Olivier Maire, ce prêtre qui avait été assassiné la semaine dernière en Vendée. La Nouvelle-Galles du Sud a enregistré 466 nouveaux cas de COVID-19 acquis dans la communauté, soit un nouveau record de cas quotidiens pour l'État. La Nouvelle-Galles du Sud déplore aussi 4 décès de coronavirus, dont une femme non vaccinée dans la quarantaine et une femme dans la soixantaine. Un milieu rural de Nouvelle-Galles du Sud, Dabo, compte 26 cas, tandis que la région de Hunter et New England en compte 16 et le confinement d'Amidels sera prolongé d'une semaine. La première de la Nouvelle-Galles du Sud, Gladys Berejiklian, a déclaré que c'était le jour le plus préoccupant depuis le début de la pandémie.
This is the largest jump we have seen in a night, and it's fair to say that we are on a par of being extremely concerned about the situation that we're in New South Wales.
On signale que de nouvelles restrictions sanitaires ont été annoncées sur l'ensemble de la Nouvelle-Galles du Sud dans le but de freiner la propagation du coronavirus. De lourdes amendes seront infligées en cas de non-respect des restrictions, notamment la violation de la quarantaine à domicile, les mensonges sur les exemptions ou les traceurs de contact et les infractions à la règle de l'exercice à deux. La restriction à un rayon de 5 km sera étendue sur l'ensemble du territoire de la Nouvelle-Galles du Sud, tandis que les permis seront désormais nécessaires pour voyager en dehors de Sydney. Le commissaire en chef de la Nouvelle-Galles du Sud, de la police de la Nouvelle-Galles du Sud, Mick Fuller, a déclaré que des policiers supplémentaires ainsi que 500 autres militaires seront déployés pour assurer le respect des ordonnances de santé publique.
During the week, the police minister and I approached the premier about some enhancements to the health order. And most of those were requests that came from the field, the police in the field who were having difficulties getting compliance from some members of the community. The movement, particularly in Greater Sydney, was way too high from our perspective in terms of what we were trying to achieve. And our part in this is to get New South Wales Health ahead of the Delta variants.
De son côté, le Victoria a enregistré 21 cas de COVID-19 sur 33 000 tests effectués hier. Tous les nouveaux cas enregistrés au Victoria sont liés aux épidémies actuelles et 11 étaient en quarantaine pendant toute leur période infectieuse. Le nombre des sites d'exposition au COVID-19 au Victoria a dépassé désormais les 450 et a touché notamment le plus grand centre commercial d'Australie, le centre commercial de Chadstone, dans le sud-est de Melbourne. On signale aussi que des fragments viraux ont été trouvés dans des eaux usées de deux nouvelles zones régionales, à Shepparton, dans le nord de l'État, et à Lakes-in-Trance, dans le Gippsland. Pendant ce temps, la police de Victoria enquête sur des menaces contre le producteur de conserves SPC suite à sa position sur les vaccinations COVID pour les employés. En effet, SPC a été la première entreprise australienne à exiger que tous ses 450 employés et visiteurs sur place soient vaccinés contre le coronavirus ou se voient imposer une interdiction de travailler. Des publications anonymes sur les réseaux sociaux ont suggéré de dégrader ou de contaminer les produits SPC dans les supermarchés. Les détectives de Shepparton, où SPC est basé, enquêtent sur les posts incriminés donc sur les réseaux sociaux. Et de son côté, le Queensland a enregistré 6 nouveaux cas de COVID-19 acquis localement et tous étaient liés au cluster d'Indooroopilly et tous se trouvaient en quarantaine alors qu'ils étaient infectieux. Le médecin en chef adjoint du Queensland, le docteur James Smith, estime que ces chiffres sont très rassurants.
So they are a one-year-old sibling of a child who was already in hospital, the case. We've had 5 adults related to both Brisbane Boys Grammar School and Ironside State School.
Et l'Organisation mondiale de la santé va mettre en place une nouvelle équipe pour enquêter sur les origines du COVID-19. L'OMS a annoncé la création du groupe consultatif scientifique international sur les origines des nouveaux agents pathogènes lors d'un briefing à l'ONU. L'incapacité de l'OMS à déterminer où et comment le virus a commencé à se propager a alimenté les tensions entre les États membres, notamment entre la Chine et les États-Unis. L'OMS a appelé tous les gouvernements à coopérer pour accélérer les études sur les origines de la pire pandémie depuis un siècle et a appelé à dépolitiser les débats. Et les Pays-Bas envisagent de lever les règles de distanciation sociale dans le secteur de l'enseignement supérieur afin de favoriser le retour des étudiants sur les campus universitaires. Les infections au coronavirus aux Pays-Bas sont en baisse et on signale que plus de 70% des adultes néerlandais sont entièrement vaccinés et 43% des 12 à 17 ans ont eu au moins une dose de vaccin contre le COVID-19. Le Premier ministre par intérim néerlandais Mark Rutte a déclaré que le gouvernement néerlandais accordait désormais la priorité à l'assouplissement des restrictions de COVID-19 dans l'enseignement supérieur en raison des conséquences sur les jeunes.
Omdat ruim een miljoen jonge mensen.
More than a million young people have been largely receiving online education for a year and a half, and the consequences of this are simply very serious. We are seeing extra dropouts, more study delays, and above all, many more mental problems due to less personal guidance and less social contact. With taking all those things and in that consideration, now we are giving priority to higher and university education. And we will let go of the 1.5 meters social distancing there from the start of the new academic year.
Les talibans ont poursuivi leur avancée implacable en Afghanistan. Ils se sont emparés de la ville de Pul-el-Alam, capitale de la province du Logar, à 50 km au sud de Kaboul. Et les insurgés contrôlent maintenant la moitié des capitales provinciales. Toutes ces capitales sont tombées en seulement 8 jours. De nombreux pays, dont les États-Unis, vont évacuer en catastrophe Kaboul, leurs ressortissants et diplomates. Les pays de l'OTAN se sont réunis en urgence hier à Bruxelles pour examiner la situation. Jérémy Audouard, RFI.
Dans un communiqué publié à l'issue de la réunion, les membres de l'OTAN ne masquent pas leur inquiétude. Ils se disent profondément préoccupés par les niveaux élevés de violence, notamment en raison des attaques commises par les talibans à l'encontre des civils. Le secrétaire général de l'OTAN a organisé cette réunion suite au récent déploiement militaire orchestré par Washington et Londres. L'Alliance Atlantique élabore elle aussi une stratégie pour évacuer ses diplomates. Sur place à Kaboul, il reste le représentant civil de l'OTAN, ainsi que son équipe. 9 États de l'Union européenne ont toujours, eux aussi, leur ambassade là-bas. Selon une source diplomatique citée par l'AFP, la Turquie devrait se charger sur place de surveiller l'aéroport. La Norvège aurait pour mission de faire tourner l'hôpital central de la capitale. Pour autant, aucune décision majeure n'a été prise, la réunion s'étant limitée à de simples échanges qualifiés de réalistes.
Et c'était Jérémy Audouard pour RFI. Et hier, les obsèques du père Olivier Maire se sont déroulées à Saint-Laurent-sur-Sèvre, en Vendée. Le père Olivier Maire, c'est ce prêtre de 60 ans, tué dans la nuit de dimanche à lundi. Il faut signaler qu'un ressortissant rwandais s'est dénoncé. Il est aussi l'auteur présumé de l'incendie de la cathédrale de Nantes en juillet 2020. Les proches et la famille de la victime étaient présents, ainsi que le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti. Le père Daniel, de la communauté de Montfortin de Saint-Laurent-sur-Sèvre, a rendu un hommage plein d'émotion au père Olivier Maire.
Ton humour va me manquer, ainsi qu'à toute la communauté. Mais nous devons aller de l'avant sans nous décourager. Olivier, tu as beaucoup de travail à faire, parce que tu dois être là à nous soutenir. Tu nous as laissés dans ces circonstances. Je ne vais pas mettre d'adjectif. Et maintenant, donne-nous cette force de continuer ce que tu as fait avec douceur, simplicité et humilité.
Le Premier ministre britannique Boris Johnson a exprimé sa sympathie aux familles des victimes d'une fusillade de masse dans le sud-est, le sud-ouest de l'Angleterre. La police britannique a nommé Jack Davison, un homme âgé de 22 ans, comme l'homme derrière la fusillade dans la ville de Plymouth. Davison, qui avait un permis de port d'armes, a tué 5 personnes, dont une très jeune fille et son parent, avant de se suicider, probablement avec un fusil à pompe. Boris Johnson a déclaré que le motif n'était pas clair, mais a confirmé qu'il avait été informé de publications en ligne de l'homme sur des sites web misogynes.
This has just been drawn to my attention. I'm sure that will be something that I'm appalled by it clearly, but I think that this is something that will undoubtedly be part of the investigation. I think we should leave it to them.
Et 4 personnes ont été tuées dans une fusillade de masse en Malaisie. Un militaire de la Royal Malaysian Air Force a abattu 3 de ses collègues avant de se suicider dans une base de Bornéo. Les autorités ont demandé de la patience pendant qu'une enquête sur les motivations du tireur se poursuivent. Et retour en Australie pour un coup d'œil à météo pas les villes, principales villes du pays. Perth, 20 degrés, Adélaïde, 17, Melbourne, 18, Hobart, 15, Canberra, 15 également, Wollongong, 20, Sydney, 21, Newcastle, 21, Brisbane, 23, Cairns, 27 et Darwin, 31 degrés. Présent un rappel des principaux titres de l'actualité de ce samedi, la Nouvelle-Galles du Sud durcit les restrictions sanitaires après avoir enregistré 466 nouveaux cas de COVID-19. Réunion d'urgence des pays de l'OTAN suite à la progression inexorable des talibans en Afghanistan. Et en France, obsèques hier du père Olivier Maire, assassiné la semaine dernière en Vendée.
Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com/sbsfrench.
Dans l'actualité sportive de ce samedi, on commence avec le football, avec la Ligue 1, dont se jouait tôt ce matin le deuxième match du championnat français, un match qui opposait Lorient à Monaco. Victoire plus tôt ce matin de Lorient 1-0 contre Monaco. Après la Ligue 1 qui a commencé sa saison la semaine dernière, ce matin s'ouvrait aussi le premier match comptant pour la saison 2021-2022 de la Premier League en Grande-Bretagne, avec à la clé un match d'ouverture entre Brentford et Arsenal. On rappelle qu'Arsenal avait terminé 8e la saison dernière, et avant le match d'ouverture ce matin, Michael Arteta, entraîneur de l'équipe, avait clarifié ce que l'équipe doit faire cette saison pour améliorer son palmarès. On l'écoute.
L'objectif, c'est de tirer le meilleur de cette équipe de manière intelligente. C'est ça qui pourra nous rapprocher de la victoire, et c'est ce que je veux de mes joueurs. Si nous jouons de manière cohérente à chaque match, nous aurons une bonne place. Et c'est justement ce que nous n'avons pas réussi à faire la saison dernière. Nous n'avons pas été réguliers et il faudra maintenant donner la meilleure version de nous-mêmes à chaque fois. Et si nous y parvenons, les résultats seront logiquement là.
Mais à l'issue du match, tôt ce matin, donc match d'ouverture de la Premier League, victoire de Brentford 2-0 contre Arsenal. Ce matin débutait aussi le championnat espagnol avec la rencontre Valencia contre Getafe, victoire de Valencia 1-0. Autre début de saison, c'est la Bundesliga avec une rencontre entre le Borussia Mönchengladbach contre le Bayern de Munich, match nul entre les deux équipes, 1-1 partout. Il faut rappeler que Mönchengladbach a considérablement renforcé ses effectifs pour cette saison, mais pour Julian Nagelsmann, le nouvel entraîneur du Bayern, titulaire du titre 9 fois consécutives, la conquête d'un 10e sacre est toujours possible et le Bayern compte marquer les esprits cette saison.
Gladbach a une très très bonne équipe et un nouvel entraîneur de qualité. Je pense qu'ils ont l'ambition d'aller haut dans le classement. C'est donc un adversaire coriace, ambitieux et exigeant pour notre premier match de la saison. Mais il n'y a pas d'adversaire vraiment facile de toute façon en Bundesliga. Je pense que chaque équipe est pleinement motivée lorsqu'elle nous affronte. Tout le monde a en tête de nous empêcher de remporter un 10e titre consécutif. C'est un grand défi pour nous, un défi très motivant. Et pour l'atteindre, il faudra donner le meilleur chaque jour à l'entraînement et pendant les matchs.
Toujours au football, mais en Australie, eh bien, l'Australie a déclaré cette semaine qu'elle espère organiser le mondial en 2030 ou le mondial de 2030 ou 2034. Le patron de la fédération australienne, James Johnson, croit pouvoir de nouveau concourir en bénéficiant de l'élan créé par l'organisation partagée avec la Nouvelle-Zélande, la Coupe du monde féminine en 2023 et des Jeux olympiques à Brisbane en 2032. On reste en Australie où le comité olympique australien a lancé une critique cinglante contre le gouvernement d'Australie-Méridionale qui vient d'imposer une quarantaine de 28 jours à des athlètes olympiques de retour des JO de Tokyo via la Nouvelle-Galles du Sud. En effet, 16 athlètes de l'Australie-Méridionale doivent rester en quarantaine assignée pendant 14 jours et devront s'auto-isoler pendant 2 semaines supplémentaires à leur retour en Australie-Méridionale. Le premier de l'Australie-Méridionale, Stephen Marshall, a déclaré que la nouvelle période de quarantaine est dévastatrice pour les athlètes, mais ne changera pas la règle car elle protégera les résidents de South Australia contre le COVID-19. Le directeur général du comité olympique australien a fustigé cette mesure tout en précisant que la position du gouvernement de l'Australie-Méridionale est en contradiction avec les conseils des experts médicaux et pose également un risque important pour la santé mentale des athlètes. Il a qualifié cette décision de cruelle et insensée. Et après les JO de Tokyo qui se sont clôturés le week-end dernier, on se souvient que la performance des Bleus n'était pas à la hauteur. Eh bien, Xavier Barré de Radio Foot International revient sur la raison de cette mauvaise performance des Bleus à ces Olympiades.
En fait, la France n'avait pas d'équipe. Elle avait des joueurs qui ont été regroupés au dernier moment sous la coupe de Sylvain Ripoll, qui ont débarqué là-bas avec un seul match de préparation. Et donc, cette équipe qui était pas du tout une équipe, qui était juste un agglomérat de quelques joueurs disponibles, n'a pas pu tenir la distance. Ils ont commencé par une sévère défaite contre le Mexique, qui lui était venu pour gagner ce tournoi, puisqu'ils avaient été champions olympiques médaille d'or à Londres en 2012. Et ils ont fini troisième d'ailleurs. Ensuite, l'Afrique du Sud, ils ont eu beaucoup de chance de gagner 4-3 parce qu'ils se sont fait complètement manger et les petits Sud-Africains auraient dû d'ailleurs gagner. Et pour finir, ils se sont fait complètement surclasser par le Japon qui jouait aussi chez lui et qui a fini quatrième puisqu'ils ont perdu le match pour la médaille de bronze. Donc, on a une équipe de France qui a été en dessous de tout. Gignac, qui a 35 ans, est venu jouer ce tournoi avec beaucoup de conviction. Il était un peu seul d'ailleurs dans cette équipe. Thauvin a été fantomatique. Bon, ça c'est pas nouveau. TJ Savanier, c'était son bâton de maréchal. Les autres, c'était des jeunes que les clubs avaient bien voulu laisser à disposition parce qu'ils comptaient pas vraiment sur eux. Donc c'était vraiment une équipe de France de fortune. Elle a eu ce qu'elle méritait en fait. Et les principaux fautifs, c'est évidemment la fédération qui a pas su faire pression sur les clubs pour les faire libérer. C'est évidemment ces clubs de Ligue 1 qui ont pensé d'abord à la préparation du championnat, même si c'est important pour eux d'un point de vue économique. Mais quand même, les Jeux Olympiques, c'est aussi une magnifique vitrine. À part, je crois, le président Kita qui a lâché Colomouani, il y avait très peu de joueurs vraiment titulaires dans cette équipe. Ici, il y a Bernardoni, le gardien. Les autres, c'était vraiment des joueurs, mais des remplaçants. Donc c'est une équipe qui n'a pas tenu le choc et qui a eu ce qu'elle méritait.
Et on reste sur le continent africain, mais on revient sur le football avec l'organisation de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, la CAN. On ne connaît pas encore la composition des différents groupes, mais les modalités du tirage au sort sont d'ores et déjà déterminées et ce tirage au sort aura lieu mardi prochain. Thomas Rossi de RFI revient sur ce tirage au sort.
Ce sera mardi ce tirage au sort à Yaoundé. Les sélections seront réparties dans quatre chapeaux différents selon leur classement FIFA. Cela fonctionnait déjà de cette manière à la CAN 2019. Impossible donc de retrouver les deux derniers finalistes, l'Algérie et le Sénégal, dans le même groupe. Ils figurent évidemment dans le pot 1 avec le pays hôte, le Cameroun, la Tunisie, le Maroc et le Nigeria. Ces six sélections affronteront entre autres soit l'Égypte, soit le Ghana, la Côte d'Ivoire, le Mali, le Burkina Faso ou la Guinée, qui eux figurent dans le chapeau 2. Par exemple, un Sénégal-Côte d'Ivoire dès la phase de poule est possible. Dans le pot 3, on retrouve notamment la Mauritanie, présente à la CAN en 2019, le Gabon de Pierre-Emerick Aubameyang, et dans le 4, les Comores pour leur première participation, mais aussi le Soudan ou encore la Gambie.
Et un mot de tennis, qualification de Gaël Monfils pour les quarts de finale du tournoi de Toronto. Hier, 6-1 et 7-6 face à l'Américain Francis Tiafoe. Gaël Monfils rencontrera en quart de finale un autre Américain, John Isner, qui lui est venu à bout du Russe Andrei Rublev en 2-7, 7-5 et 7-6. Et toujours au tournoi de Toronto, Stefanos Tsitsipas a célébré son 23e anniversaire hier en battant Karen Khachanov 6-2-6-3 pour se qualifier pour les quarts de finale du tournoi de Toronto. La tête de série numéro 3 grec a dominé son adversaire russe, sauvant ses deux balles de break et remportant 74% de ses points de service. Il affrontera ensuite le Norvégien Casper Ruud pour une place en demi-finale. Un mot de cyclisme pour terminer. Les cyclistes autour d'Espagne, la Vuelta, donc Tour d'Espagne 2021, se lanceront ce samedi 14 août. Le départ sera donné à Burgos et l'arrivée aura lieu le 5 septembre prochain à Saint-Jacques-de-Compostelle. On souligne qu'il s'agit du troisième et dernier grand tour de la saison et de la 32e manche de l'Union Cycliste Internationale World Tour 2021. Voilà, c'est tout pour l'actualité sportive de ce samedi, suite du programme après la pause. Voilà, vous êtes toujours à l'écoute du programme en français sur la radio SBS ce samedi 14 août. Avant de passer à notre rubrique rétro, nous allons donc revenir sur la destruction, l'effondrement du pont Morandi. Tout d'abord, une chanson de Julien Clerc, Mon Refuge. Emmène-moi.
Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au/French.
Notre rétro sonore comme chaque samedi, nous sommes le 14 août. Le 14 août 2018, le gigantesque pont Morandi qui enjambe la ville de Gênes en Italie s'effondrait alors que nombre de véhicules se trouvaient dessus. Bilan, 43 morts et de nombreuses questions sur les raisons du drame. L'effondrement du pont Morandi de Gênes, le 14 août 2018, c'est notre rétro-sonore du jour, avec les archives de l'INA, l'Institut National de l'Audiovisuel.
Une tragédie, celle de l'ancien pont Morandi.
Le pont Morandi est violemment battu par les pluies et par les vents. Soudain, à 11h36, toute la structure se met à trembler. À 11h50, les urgences sont assaillies par les premiers appels.
Pronto numero unico emergenza.
Esente collato il ponte Morandi.
Juste après, un homme filme la fin de l'effondrement. Le viaduc a littéralement disparu sous ses yeux. À proximité, d'autres témoins filment. Sur le pont, des camions et des voitures sont abandonnés en urgence. Leurs propriétaires partent en courant, comme ce Français.
Ça allait très vite, ouais. C'était digne d'une scène de film américain. Ouais. Ouais. En fait, on a vu le pont s'écrouler devant nous, on a mis la marche arrière, on a reculé, puis on a abandonné les voitures, on a fini en courant.
Les conducteurs ont peur que le pont ne continue à s'effondrer. Ils partent se réfugier dans ce tunnel. L'Italie tout entière commence à découvrir l'ampleur de la catastrophe.
La route s'est dérobée, coupée net. Le pont Morandi, effondré sur une longue portion, près de 200 mètres, et des automobilistes emportés dans la chute. C'est un viaduc autoroutier très fréquenté, traversant la ville de Gênes qui s'est brisé. Depuis l'hélicoptère des pompiers, on aperçoit les voitures et les camions qui ne sont pas tombés. Par miracle, il s'en est fallu de quelques mètres, quelques secondes seulement. D'après les premiers témoins, le pont s'est affaissé en plusieurs étapes. De nombreux automobilistes n'ont pas eu le temps de fuir. Ils ont chuté de 45 mètres. Parfois, leurs véhicules ont été écrasés par d'immenses blocs de béton, sous les yeux des habitants du quartier, au pied du pont.
C'est le premier à devoir rendre des comptes, Autostrade per l'Italia, la société qui exploite l'autoroute et le pont Morandi. Ce concessionnaire est-il le premier responsable ? L'entreprise fait partie du groupe Benetton. C'est l'un des plus grands concessionnaires d'Europe depuis 1999, avec 2855 km gérés et près de 4 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Régulièrement, il y avait des réunions avec les habitants du quartier qui s'inquiétaient de la fragilité du pont.
On leur a demandé si la maintenance était bien assurée, si le pont résistait puisqu'il avait 50 ans. Autostrade nous a répondu « Oui, nous assurons une maintenance constante ».
Dans un communiqué, l'entreprise dit avoir pris toutes les précautions. De grands travaux avaient bien été réalisés en 2016 et de nouveaux travaux de maintenance étaient en cours. Alors y a-t-il eu des fautes politiques ? Devant ce pont qui vieillissait mal, d'autres solutions ont bien été envisagées. 1980, la Bretella, une route alternative pour soulager le trafic. Projet abandonné par la mairie communiste pour des raisons électoralistes. 1990, la Gronda. Des plans pour une nouvelle autoroute, sujette à d'âpres négociations politiques. Trop cher pour le mouvement 5 étoiles. En 2013, le parti populiste, alors dans l'opposition, affirmait
« Les rumeurs d'effondrement du pont Morandi relèvent du conte pour enfants ».
Le chantier devait finalement commencer en 2019, trop tard. Ce pont est-il le seul à être mal entretenu ? Le réseau italien est-il dangereux ? Avant Gênes, 10 effondrements de ponts en 5 ans. Et selon les spécialistes, plus de 300 ponts ou tunnels présenterait aujourd'hui de graves anomalies dans le pays. Ce matin du 14 août 2018, l'inimaginable vient de se produire sous les yeux des habitants. Le viaduc le plus emprunté de la ville s'est effondré, coupé net au milieu de la route, arrachant la vie de 43 personnes. Les restes du pont Morandi sont détruits un an plus tard et la course contre la montre débute pour Francesco Poma. Cet ingénieur en chef accepte de relever un défi, rebâtir un pont en 12 mois seulement.
Ce pont, nous l'avons réalisé dans un temps record. Le temps, c'était notre premier objectif. Nous voulions recoudre cette blessure sur le territoire et dans les cœurs le plus vite possible.
Jour et nuit, 7 jours sur 7, plus de 1000 ouvriers se sont relayés pour la construction. Ni les intempéries, ni le Covid n'ont interrompu les cadences. Un exploit inédit au pays des chantiers interminables.
C'est un cas unique en Italie, où certains chantiers attendent 20 ou 30 ans avant de pouvoir démarrer. C'est vrai que ce projet est né de circonstances exceptionnelles, d'une grande tragédie.
Des démarches administratives facilitées, des travaux presque érigés en spectacle, comme le passage de ces poids lourds pour tester la solidité de la structure, suivi en direct par les Italiens grâce à des webcams. Un chantier à 202 millions d'euros, achevé alors que l'enquête n'a pas encore déterminé les causes de l'effondrement du pont Morandi. Une inquiétude pour les proches des victimes, dans un pays où le réseau routier est mal en point.
Le risque, c'est que tout ce spectacle cache les vraies causes de l'effondrement. J'ajoute que l'état des autoroutes dans la région est terrible. Et en 2 ans, rien n'a été fait.
Symbole de performance et de renouveau dans une Italie durement touchée par la crise sanitaire, le nouveau pont de Gênes baptisé San Giorgio est loin de faire oublier la tragédie du pont Morandi. D'ailleurs, les familles des 43 victimes ainsi que les habitants du quartier ont tout simplement décidé de boycotter la cérémonie d'inauguration.
Vous voulez entendre d'autres rubriques comme celle-ci ? Écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où vous obtenez vos podcasts.
Silence les grillons sur les branches immobiles.
Et c'était Cézanne chante avec France Gall. À présent, après une courte pause, on va parler cinéma. On retrouve Christophe Mallet en conversation avec Ruben Alves, le réalisateur du film Miss, qui ouvre en salle en Australie après un succès au Festival du film français de l'Alliance française.
Vous êtes avec Radio SBS en français.
Eh bien, on a le plaisir d'avoir Ruben Alves avec nous. Ruben Alves, c'est le monsieur derrière ce film Miss. Miss, c'est un film qui avait très bien marché au Festival du film français. Et là, il sort dans in its own right, comme on dirait en anglais, tout seul, comme un grand. C'est un film qui est vraiment extraordinaire. Bonjour et merci de nous donner un peu de temps. Je sais que c'est un peu précieux, vous travaillez en ce moment.
Oui, mais on a toujours du temps pour parler de son film et surtout voilà, à l'étranger et en Australie où c'est un pays en plus où je m'étais rendu pour mon premier film et que j'avais beaucoup apprécié. Voilà, donc je suis ravi d'être avec vous.
Alors ce film justement, Miss, racontez-nous un petit peu l'histoire parce que quand on lit comme ça entre les lignes, on peut se dire c'est incroyable, mais il y a tellement plus de profondeur dans ce film et c'est peut-être pour ça que ça a vraiment marqué au niveau du public australien parce qu'on l'a beaucoup rapproché d'un film australien comme Priscilla. C'est vrai que vous avez beaucoup parlé dans tout ce qui était promo de Billy Elliot ou de Little Miss Sunshine, mais c'est vrai que Priscilla aussi, c'est vraiment très proche de ça.
C'est vrai. C'est vrai aussi. En fait, Miss, il y a la petite histoire dans la grande histoire, c'est-à-dire que la grande histoire, c'est au fond, c'est avoir le courage d'être soi, en fait. C'est pouvoir assumer qui l'on est avec ses différences. Donc ça, je pense que c'est assez universel. Ça peut parler à beaucoup de monde, c'est transversal. Et puis voilà, après, la petite histoire, c'est ce rêve fou que ce petit garçon a depuis gamin, tout petit, voilà, que c'est d'être Miss France. Donc du coup il va tout faire pour réaliser son rêve. Donc voilà, c'est aussi une histoire de rêve entre guillemets, de se dire que voilà, quand on les a, il faut se donner les moyens pour y accéder, voilà, même s'ils paraissent complètement fous, complètement dingues. Et je pense que ça fait du bien aujourd'hui, dans notre époque où tout devient très très ludique, très pragmatique. Voilà, il y a un côté tout va très vite, tout, et voilà, et se permettre de rêver à un moment donné, je pense que c'est le rôle du cinéma. Et voilà, et Miss, oui, ça englobe tout ça, mais ça parle aussi de tous ces gens qui sont les désaxés de la société, voilà, qu'on met de côté, mais qui avec de la fraternité vont de l'avant et s'entraident. Voilà, c'est, oui, il y a pas mal de sujets dans ce film. Et puis, c'est surtout l'histoire d'une rencontre avec le personnage principal qui est Alexandre Véter.
Ah, je voulais qu'on en parle justement parce que vous vous êtes rencontrés sur les réseaux sociaux, je crois. Si vous le suiviez sur les réseaux sociaux. Et c'est comme ça que vous avez plus ou moins flashé sur lui et sur ce qui transpondait à travers ces réseaux sociaux.
Oui, tout à fait. Je le suivais pas, en fait. Je cherchais un personnage comme ça pour un autre projet, en fait, que je n'ai pas fait au final. Et je cherchais, et je suis tombé sur l'Instagram d'Alexandre. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que ce personnage, ce garçon qui fait toutes ses performances au féminin, mais c'est incroyable. Et donc je l'ai rencontré. Et quand j'ai bu un café avec lui, j'étais fasciné, en fait, par en fait sa lumière, il avait quelque chose de très lumineux, de très positif, parce que je lui demandais, mais tu fais ça, elle me dit oui, c'est des performances, je travaille mon féminin, ça me fait beaucoup de bien, j'aime beaucoup, je me sens plus fort quand je suis en femme en plus. J'ai dit ah ouais, c'est incroyable, mais tu veux devenir une femme? Il me dit non, pas du tout. J'ai dit ok, donc en fait je me suis dit c'est ça en fait que je veux mettre à l'écran, c'est ce destin là, c'est ce personnage là, c'est voilà, qui paraît très complexe comme ça, mais je pense que c'est terriblement de notre époque. Voilà, c'est justement la question du genre, de se sentir bien dans un corps ou dans en osmose avec soi-même. Et du coup, voilà, tous ces points que je trouvais assez fascinants et très intéressants de voir au cinéma. Donc du coup, j'ai dit, écoute, banco, je suis venu voir mes producteurs. J'ai dit, j'ai rencontré quelqu'un. C'est incroyable. Il dit oui, mais t'as un pitch. J'ai dit non, pas encore. Et je l'ai revu et on a déjeuné ensemble. Et là, j'ai trouvé le pitch.
D'accord.
Je lui ai dit, qu'est-ce qui serait le plus dingue, en fait, pour un garçon comme toi d'accéder à sa féminité? Comment est-ce qu'on. Et de fil en aiguille, on parlait et il m'a dit la Marianne de France. J'ai dit, Marianne de France, c'est un peu compliqué quand même. Ouais. Et puis du coup, j'ai dit Miss France. Il m'a regardé, il me fait fais-moi une Miss France, Ruben. Alors voilà, et puis du coup, je suis arrivé voir mes producteurs et j'ai dit c'est l'histoire d'un garçon qui a un rêve de devenir Miss France.
Parce qu'il y a ça aussi, il y a le fait qu'il se bat un peu dans la société au jour le jour pour se faire accepter, mais il y a aussi cette espèce de chape de plomb autour d'un événement comme Miss France qui est quand même, entre guillemets, un peu daté quand même dans le je sais pas comment on peut dire, l'intérêt général. Mais aujourd'hui, on peut se poser la question, en fait. On peut se la poser la question. Et ça, c'est un peu le défi que vous êtes relevé sur ce film-là.
Oui, ça aussi, parce qu'effectivement, moi, je n'étais pas un grand fan de Miss France à la base. Hein. J'ai eu cette idée-là, saugrenue, je ne sais pas comment. Mais c'est vrai que ça remet quand même en question pas mal de choses, des codes de la société aujourd'hui, ce que renvoie ce concours qui paraît un peu obsolète. En même temps, moi, je suis allé frapper à leur porte et je leur ai demandé de l'aide, dans le sens, est-ce que vous pouvez m'ouvrir les portes pour que je puisse regarder et écrire mon scénario? Et ils m'ont ouvert les bras, vraiment. Et ça, déjà, je trouve que c'est une forme de modernité, justement, pour le coup, du comité, parce qu'ils m'ont dit... quand j'ai dit le pitch, c'est vrai qu'il y a eu un petit blanc. Hein, quand j'ai dit c'est l'histoire d'un garçon qui veut devenir Miss France, ils m'ont regardé comme ça. Sylvie, elle a dit d'accord. Et en fait, voilà, ils ont été hyper coopératifs. Ils m'ont vraiment ouvert leurs portes. Donc, oui, parce qu'effectivement, moi, ce que je trouvais intéressant, en fait, c'est comment dans un concours qui est bourré de codes, un personnage va passer à travers ce concours et qui ne veut absolument pas rentrer dans des codes, justement, dans des cases. Et le concours, c'est tout l'inverse, en fait. C'est vraiment très codifié et tout. Et c'est ça qui m'intéressait. Voilà, de bousculer un petit peu ça. Voilà. Et du coup, et c'est vrai que, au final, vous savez, en France, ça marche très fort encore Miss France. C'est-à-dire qu'une fois par an, donc il y a ce concours à la télé, ce prime time, et c'est l'un des prime time qui fait le plus d'audience avec les finales de football. C'est incroyable, en fait. Les gens, je pense qu'ils aiment bien encore retrouver ce côté de défendre une région. Voilà, il y en a quasiment plus en fait.
Il y avait Interville avant, mais il n'y a plus Interville.
Exactement, il y avait Interville avec les vachettes et maintenant il n'y en a plus. Donc du coup, ils sont rabattus sur Miss France.
Voilà, tout
donc,
à fait.
Donc ouais, c'est un gros événement.
Ce que j'ai beaucoup aimé dans le film aussi, c'est la relation qu'il a avec l'ancienne génération de gens qui ont du mal à s'assumer dans leur genre. Et là, je trouve que il y a vraiment des beaux moments dans le film, notamment le moment où il décide d'aller s'orienter plus vers la prostitution. Mais d'après l'expérience, on lui dit absolument pas. Et il y a cette espèce de passage de pouvoir. On sent que c'est passé d'un problème à un autre problème. On sent que le problème change complètement de génération, en fait.
Oui, en fait, ce moment-là, il est un petit peu... Bon, c'est quand rien ne va plus, c'est-à-dire d'un coup, on est en train de lui faire comprendre que du coup, il est un peu fou, en fait, de faire ça, de faire ce rêve qui n'aboutira jamais, c'est complètement... Et en fait, il y a toutes les illusions qui tombent parce qu'il se remémore que ses parents, en fait, lui disaient que tout était possible, et en fait, il se rend compte que pas du tout, en fait. Voilà, la société, elle est difficile, elle est dure, et c'est vrai qu'il a il a cette pulsion qui se dit « je vais aller faire le trottoir parce qu'en fait, c'est là où on m'envoie. »
Votre communauté, vos conversations. SBS French.
Maintenant, Andy avec Rita Mitsuko pour nous amener à la fin de cette édition. Merci de votre compagnie. Prochain programme, c'est demain avec Jean-Noël Ducasse. Bon après-midi, bon week-end et à très bientôt.
Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com/sbsfrench.